20 minutes avant la fin du monde. Le podcast d'autodéfense écologique.
Bonjour, bonjour, bonjour. C'est une émission spéciale dans tous les sens du terme. Spéciale d'abord parce qu'on est très heureux de vous retrouver après une pause liée à la crise sanitaire. D'où un air de fête dans ce podcast aujourd'hui, un festival. On va écouter des paroles qui caricaturent violemment l'écologie pour essayer de comprendre ce qui se joue dans de tels discours. Pour ça, une équipe tout-terrain, de choc, ceinture noire d'autodéfense intellectuelle, médaillée à tous les concours de Sudoku, les premiers de cordée, des mots fléchés, j'ai nommé Sarah.
Bonsoir.
Greg.
Salut.
Et Pierre.
Bonsoir.
Pierre, bienvenue à bord pour cet épisode. Tu es le créateur d'un podcast qu'on aime beaucoup ici, qui s'appelle Breaking All News.
Absolument, absolument.
Qui parle de l'actualité d'autrefois, le naufrage du Titanic, la fuite de Louis XVI, le massacre des bisons, à la manière des chaînes d'infos en continu.
Absolument.
Alors, on a une tradition ici, c'est de demander aux personnes qui nous rejoignent, tradition récente, hein, je précise, qui nous rejoignent les meilleurs généralement, le temps d'un épisode, les personnes qui nous rejoignent, le temps d'un épisode, de nous dire ce que veut dire pour eux ce mot qu'on entend peut-être un peu trop aux yeux de certains, ce mot d'écologie.
Terrible question, mais ma réponse tient en deux mots.
C'est pas mal.
Hugo d'abord, Clément après. Hugo, Clément, l'écologie à la française. Non, alors pour être plus sérieux, l'écologie, en y réfléchissant un peu, parce que je savais que tu allais me poser cette question, l'écologie est intimement liée pour moi aux politiques. C'est-à-dire que j'ai du mal, autant tu me dirais environnement,
ouais,
je penserais à l'écologie, autant tu me dis écologie, je vois Yannick Jadot, je vois Noël Mamère, je vois tout ça, et j'ai beaucoup de mal à le dissocier du sens politique du terme.
Alors on va voir si des intervenants dans ce programme sont d'accord avec toi, parce que nous allons écouter quelques extraits assez dingues et complètement banaux pour autant. On va commencer par le premier d'entre eux, un certain Alain Finkielkraut, et puis on en dira quelques mots ensuite.
Si demain les enfants parlent plus fort que les parents, ben, il n'y aura plus de civilisation. Tout simple, on sort de la civilisation. Bon, ben, c'est une voie qu'on est en train de choisir, ça c'est vrai. Mais je pense sincèrement que nous n'y gagnons rien et l'écologie non plus.
Alors, il n'est pas très content là.
Non, il n'est pas très content. Moi, c'est Finkielkraut. Ce qui me fait rire dans cette histoire à s'acharner sur Greta, on peut dire les Finkielkraut, hein, parce que ce n'est pas le seul à s'acharner dessus, c'est que ça fait 40 ans qu'on a des scientifiques qui alertent sur le dérèglement, on a eu qui vous voulez, on a eu Jared Diamond, on a eu les climatologues, on a tous les ans on a un rapport du GIEC, et quand Greta parle, tous les Finkielkraut du monde s'accordent pour dire c'est une enfant, on va quand même pas écouter une enfant, c'est pas possible, pour trouver un argument qui est un peu nul, alors que en fait, il suffit d'écouter les scientifiques, et c'est ce qu'elle dit depuis le début. Ouais. Et les scientifiques, on les écoute pas, mais on va taper sur Greta parce qu'on dit non, on va pas écouter Greta, on va écouter plutôt des scientifiques. Bah écoutez-les, elle ne dit que ça en plus. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle en plus, elle dit pas du tout, faut faire comme moi je dis,
ah ouais,
faut faire comme moi, faut faire comme je pense. Elle dit aussi,
j'ai lu la littérature.
Voilà, reportez-vous aux scientifiques. Mmh. Et donc c'est toujours la même histoire. Ça fait 40 ans qu'on a des scientifiques qui parlent, on les écoute pas. Quand c'est Greta qui parle, on dit c'est une enfant, amenez-nous des scientifiques. Je trouve ça bizarre.
Moi, ce que je trouve intéressant, c'est deux choses. C'est déjà qu'Alain Finkielkraut, ben, il a fait mai 68. Et à l'époque, il était relativement jeune. Donc, à l'époque, en tant que jeune, il avait le droit de parler. Mais nous, aujourd'hui, on n'a plus le droit de parler. C'est assez intéressant. Oui, je me mets dans les jeunes. Et ce que je trouve intéressant, c'est de dire les enfants parlent plus fort que les parents, etc. En parlant aussi de toutes les mobilisations de la jeunesse récente. Il y a eu les marches, les grèves, etc. Et il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'en fait, les enfants qui se mobilisent dans ce type de manifestation ont souvent le même profil que les adultes en fait, qui se mobilisent, c'est-à-dire plutôt CSP+, ouais, plutôt de gauche, etc. Donc finalement, les enfants vont plutôt parler en chœur avec les parents, pour le coup.
Querelle politique, en fait, qu'on vanterait comme une espèce de querelle générationnelle, si
exactement,
je te suis ça.
Exactement.
Et en fait, selon moi, le problème réside surtout, et c'est un problème général dans le journalisme, dans le fait que pourquoi on va demander à Alain Finkielkraut son avis sur Greta Thunberg.
C'est-à-dire,
et on en a discuté avant, Finkielkraut, je suis tombé sur son émission sur France Culture, une émission sur Voltaire, c'était brillant. J'ai passé un excellent moment, c'était intelligent, c'était pertinent. C'est un puits de culture. À quel moment on a une chaîne, et c'est là pour moi tout le problème, et on en parlera au fur et à mesure de l'émission, mais à quel moment on va penser que Finkielkraut a un avis à dire. Moi, on va pas demander à mon père de commenter la carrière de Platini. Il y connaît rien.
Et pourtant,
il a peut-être quelque chose à dire.
Il pourrait être surprenant. mais voilà quoi.
Moi, ouais, puits de culture, mais pas puits de carbone. Effectivement, je vous rejoins assez là-dessus. C'est un petit peu l'inversion de la faute en disant bah il y aura plus de civilisation pour une raison très simple. Pas parce que les enfants parlent plus fort, mais parce qu'en fait les parents et leurs enfants avec eux consomment un max de carbone sous toutes ses formes, ce qui contribue à réchauffer la planète, et avec à côté la déforestation, la raréfaction des ressources, tout ça nous met même pas au bord de l'abîme, mais dans la pente qui nous fait glisser vers le fond de cet abîme.
Et peut-être pour ajouter une petite chose par rapport à la mobilisation des enfants, des jeunes, je trouve que c'est aussi dans ces mobilisations-là, ce qui peut être intéressant, qu'on voit un peu un mélange des combats. On a vu aussi de plus en plus de slogans écoféministes ou des choses comme ça, et ça peut-être que c'est un vrai apport de cette jeunesse de faire monter ces combats tous ensemble aussi.
Et qu'il faut faire trébucher, moi je trouve, avec cette nouvelle génération, trébucher la parole sentencieuse, verticale, gravissime des aînés, qui au fond, on sait très bien où tout ça nous a amené.
Et il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que je crois que ton extrait, je me trompe peut-être, c'est Envoyé spécial.
Oui, exactement.
Et aussi, il y a un autre aspect de tout ça, qui est que Greta Thunberg devienne aussi un sujet d'envoyé spécial. Non pas la cause des jeunes forcément, non pas ce genre de sujet global, mais Greta Thunberg. Et ça, c'est un autre truc dans le journalisme qui est très spécial et qui pousse au fait qu'on va demander à un mec comme Finkielkraut de donner son avis sur Greta Thunberg, c'est ce besoin aussi d'avoir une figure qui coche toutes les cases. Ouais. Moi, il y a une émission que vous avez faite que j'ai adorée, qui est celle sur le sable. Et celle sur le sable, j'ai entendu vos extraits, tout ça, je me suis dit que ce serait un putain de sujet de reportage. Ouais. Et j'ai trouvé le documentaire dont vous êtes servi.
Ouais. Oui, qui est super.
Le journaliste qui a fait ce documentaire, tout ce truc, n'a sans doute pas eu le même écho que Greta Thunberg. Et du coup, Greta Thunberg en vient à devenir cette icône qui est censée être pertinente sur tout, sujette à un sujet entier d'envoyé spécial. Et c'est un peu aussi la part du problème, c'est de centrer le débat sur une gamine. West France qui va demander à Greta Thunberg ce qu'elle pense des gilets jaunes.
Oui.
On nage en plein délire.
Et elle ne prétend jamais parler à la place des scientifiques, mais s'appuie sur les travaux scientifiques. Alors à propos de Greta Thunberg, parce que c'est quand même intéressant de regarder d'autres commentaires, nous allons écouter un autre extrait, celui de Pascal Bruckner, qui a quelque chose à nous dire.
Elle a un visage anxieux, et on a l'impression qu'elle veut nous punir. Elle fait un peu penser à la... Vous savez, à cette... à ce film, L'Exorciste, la jeune fille qui vomit des imprécations, ben ça fait partie de son message, et c'est là où c'est très fort, parce que les médias ont adoré quelqu'un qui voulait nous tirer par l'oreille.
Mon Dieu,
quelle horreur.
Et bien là, on est quand même face à Pascal Bruckner, qui est quand même un romancier, essayiste français, bon, une figure un peu intellectuelle, normalement.
Enfin, installée, en position
installé,
de pouvoir.
Exactement, qui a quand même le degré zéro de la pensée et de la critique. C'est-à-dire que on s'attaque alors à une femme. Souvent, quand c'est une femme, c'est plus facile de s'attaquer sur le physique. Hein. Ça se rejoint
sur les humeurs.
Sur les humeurs, exactement. C'est quand même... Enfin, visage anxieux. Elle veut nous punir. Il y a un truc en plus sadomasochiste derrière. On ne comprend pas très bien, Pascal. Enfin, si ça va mal, écoute, dans la vie privée, fais ce que tu veux. Bon, enfin, moi, non, mais la question, c'est quand même... c'est où son argument?
Mais c'est ça. Mais moi, j'ai mis comme toi, j'ai mis c'est le degré zéro de la rhétorique. J'invoque Léman Viktorovitch, help, aide-nous, s'il te plaît. Aide-nous, aide-le. Non, mais moi, je sais pas, je vais me faire l'avocat du diable. J'ai envie de le défendre. Je sais pas.
C'est... Oui, non, mais
c'est pas de sa faute. Il a fait une très, très longue interview. Il s'est fait piéger par le journaliste. Il a bu, il est en train de faire un malaise. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe. C'est vraiment nul, nul, nul.
Malaise, je crois que le mot est bien trouvé. Et puis, c'est toujours cette façon de vouloir disqualifier, comme tu le dis bien, Sarah. C'est le côté de « je déporte le débat ». On pourrait parler de ce que Greta Thunberg dénonce, des problèmes politiques qu'elle soulève, mais c'est plus simple d'invoquer des critiques de tous ordres qui ne sont pas une réponse politique à un problème politique.
Et qui dégagent complètement le débat ailleurs.
Exactement. Tu changes de terrain.
C'est la faute d'avoir un intervenant qui n'est pas compétent sur le sujet dont on parle.
Exactement. Ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé aussi pendant cette crise sanitaire liée au Covid, ou à la Covid, comme on dit, de faire parler des gens qui sont peut-être spécialistes de plein de trucs, mais pas du sujet sur lequel ils sont interrogés. Simplement, ils se drapent dans une posture scientifique parce qu'ils ont étudié tel ou tel truc, ils ont eu tel ou tel poste, et on les interroge sur le vaccin, la stratégie sanitaire, etc., donnant à leur parole une disons, allure d'expertise, alors qu'ils ne sont pas plus que vous et moi experts du sujet dont ils parlent.
Et moi, je voudrais juste conclure cet extrait sur quelque chose, c'est sur le vocabulaire utilisé où ils disent imprécation. Mm-hmm. On va le revoir par la suite avec d'autres extraits.
C'est
on
vrai.
A ce vocabulaire un peu religieux. En fait, ouais, on prétend que ce que dit Greta Thunberg sort de la science, mais est religieux,
sectaire,
etc. On l'a redit, ce n'est pas le cas.
C'est bientôt le point Godwin. On l'a pas eu encore, le point Godwin.
Ouais,
avec,
et d'ailleurs, Hitler.
Le point Godwin, on va l'avoir tout de suite avec ce prochain extrait qui est un petit peu, allez, on va dire, une gourmandise en ce milieu d'épisode. Vous allez voir, c'est, comme j'aime bien le dire parfois, un super bingo.
Il y a des gens, si vous voulez, qui, comme vous, vendent une sorte de religion avec l'idée, si vous voulez, qu'on n'inventera jamais rien, je veux dire, de nouveau. Si, vous vendez une religion, et à vous entendre, on devrait plonger dans la guerre civile, on devrait mettre des millions d'emplois en danger, si vous voulez, parce que l'apocalypse nous guette. Eh bien, excusez-moi, vous pouvez rire, vous pouvez d'ailleurs,
non,
votre attitude intellectuelle le montre.
Non, j'ai envie de pleurer.
Votre attitude intellectuelle.
La manière dont vous réagissez est très suspecte.
Votre attitude intellectuelle est incroyable.
Je savais pas, attendez, j'adore cette émission.
Vous pouvez répéter, je savais, mais la manière dont vous réagissez, à mes yeux, est très suspect.
C'est un stress test cet épisode de 20 minutes.
Moi, ça me fait
foutre
palpitant en l'air.
J'ai envie de partir.
Alors, Pierre, tu vas pas partir parce que j'ai envie de te demander, mais qu'est-ce qui se passe dans cet extrait ? Alors, c'est un extrait d'une émission très connue, L'heure des pros, animée par Pascal Pro sur la chaîne CNews, qui invitait à ce moment-là la militante écologiste et fondatrice de Bloom, Claire Nouvian.
Alors là, je vais utiliser mon expertise journalistique.
Ah, j'espère bien.
Tu es là pour ça.
Là, on est vraiment dans le pire des scénarios, je pense, pour quelqu'un d'intelligent. C'est-à-dire en fait, on se retrouve avec cette pauvre Claire Nouvian qui ne sait pas, ça a été dit après, où elle va. Donc elle va dans cette fosse au lion. Mmh. Et en fait, le problème, c'est que CNews est devenu Fox News. Mmh. On est sur un truc où en fait CNews, iTélé allait très mal, CNews va beaucoup mieux parce que CNews s'est trouvé un angle d'attaque qui est Elisabeth Lévy dit ce que tu veux, fais semblant de parler à ceux qui pensent qu'on leur vole la parole, dis ce que tu veux. Et en fait, c'est un phénomène qui est à la fois marketing, ouais, qui est mondial. C'est-à-dire que moi, j'ai été correspondant au Canada.
Ouais.
Et au Canada, il y a eu un attentat à un moment dans une mosquée où un mec a tiré sur des musulmans. Et je mets deux pieds à Québec. Je venais d'arriver là-bas. C'était, je ne sais plus pour quelle chaîne, mais j'arrive là-bas et les mecs tout de suite me disent « Il faut absolument que tu écoutes les radios d'ici. » Et elles avaient un nom. Le concept, c'était les radios poubelles. C'est-à-dire qu'il y avait des radios qui cartonnaient, record d'audience, pas service public et tout, et qui en fait... C'était ça. C'était du raccourci, de l'invective.
Et ce qui est dingue, voilà, dans ce que tu dis, effectivement, tu parles de marketing, c'est simplement, c'est trop facile d'en rire, trop facile de dire des paroles de gros cons, parce que derrière, c'est une stratégie financière. C'est-à-dire que ces paroles-là, elles génèrent de l'audience, l'audience attire les annonceurs génèrent des profits. Mmh. Donc, on est sur quelque chose
qui est... C'est la stratégie Bolloré.
Voilà, à visée commerciale.
Oui, et pour revenir sur deux choses, d'abord sur le fond, mais ça a déjà été dit avant, elle dit qu'on parle de religion, comme si le fait de dire que le réchauffement climatique était attribuable, enfin l'accélération en grande partie à l'homme, était une religion alors que c'est un fait scientifique. On rappelle que plus de 99% des chercheurs s'accordent pour
c'est
le
C'est pas
dur.
Beaucoup ça, Sarah.
C'est pas tant
fait
ça.
Quand même 1%.
Non, surtout que si on regarde toutes les missions...
On l'a jamais parlé, le 1%.
Alors d'ailleurs, t'as pas laissé finir, 99% des scientifiques sont...
disent que le dérèglement climatique est une réalité et que l'activité humaine est en grande partie responsable, parce que derrière, les autres intervenants vont dire oui, non, il y a des chercheurs qui continuent à dire que c'est pas vrai. Ouais, enfin, il y en a 0,5%. Bon, voilà. Une femme, bon, elle est toujours hystérique quand elle s'énerve. Bon, moi, je suis assez souvent hystérique, je m'en excuse encore une fois. Après, moi, je reviens sur un truc que tu as dit où moi, j'ai beaucoup de respect pour Claire Nouvian et son travail. Je la soupçonne quand même de savoir où elle met les pieds, ou si elle ne le sait pas, à l'époque en plus je me demande si elle n'est pas en campagne pour les élections européennes où elle se présentait en tant que pour être députée européenne. Non, mais je la soupçonne d'être un peu au courant et de jouer aussi là-dessus et de peut-être profiter un tout petit peu du buzz. Et moi, c'est le seul truc qui me... Enfin, en fait, ça fait poser la question...
À qui profite le buzz ?
Est-ce qu'il faut y aller, en fait ? Est-ce qu'elle
c'est
a raison d'y aller ? Moi, je n'ai pas la réponse, mais je pose la question. Voilà.
C'est une excellente question.
à laquelle on ne répondra pas ce soir.
Bon, vu, j'ai l'impression qu'elle se décompose quand même. Elle se décompose face au spectacle.
C'est un moment qui est assez violent. Ouais. C'est-à-dire l'émission dans son ensemble.
C'est terrible.
Ouais. Et
c'est,
surtout, c'est... eux, ils ont complètement l'air torchés.
Mais la question derrière, c'est quand on va dans ce genre d'émission, on peut espérer peut-être convaincre des gens qui écoutent. Et toutes ces personnes qui viennent débattre avec Éric Zemmour, elles contribuent aussi à l'installer comme une figure centrale, la personne avec qui il est de bon ton, avec qui c'est indispensable de venir discuter, d'échanger les arguments. Et tout ça donne à Éric Zemmour une position centrale, mais ce serait qu'Éric Zemmour, en fait, on s'en foutrait. Et le problème, c'est que ses idées acquièrent ainsi une position de centralité.
Ouais. Et moi, je vois plusieurs solutions à ça. Soit on laisse mourir ses idées, c'est-à-dire qu'on s'en occupe pas du tout. C'est-à-dire qu'on les laisse crever. Les vieux, restez dans votre coin, parlez sur votre CNews. Vous allez tourner entre vous à balancer vos trucs. Soit faut y aller mieux armé aussi. Mais en plus de ses convictions, faut y aller avec un méga média training qui fait que tu vas pouvoir analyser leurs procédés, parce que leurs procédés ils sont un peu pourris, c'est-à-dire qu'ils se mettent à plusieurs sur elle pour lui couper la parole et la faire passer pour une dingo, et en dénonçant ce qu'ils sont en train de lui faire. Donc c'est un petit peu difficile. Donc,
alors on va tester cette méthode en écoutant d'ailleurs un autre extrait de cette même émission qui nous renseigne pas mal sur ce discours anti-écologique.
C'est ce qui est intéressant, ce qu'elle dit là. Pour le coup, on n'est pas polémique, il n'y a pas de discussion. C'est ce qu'elle nous dit. Et elle dit, vous êtes des réacs, vous êtes des ringards. Il n'y a pas de discussion sur, vous êtes des climato-sceptiques. Et ça, pardonnez-moi, journalistiquement, scientifiquement, ça me choque. D'abord parce que, effectivement, j'ai l'âme d'un provocateur. Donc lorsqu'on me dit une vérité établie, j'ai envie de la contester. Qu'elle soit historique, d'ailleurs, ça serait vrai pour n'importe quel événement historique que je pourrais revisiter, essayer de comprendre. Et je suis étonné, effectivement, qu'on nous dise ça. C'est pour ça qu'on réagit parfois d'une manière un peu forte, parce que je pense que toute vérité est discutable, si j'ose.
Non, mais moi, je voulais juste préciser, c'est-à-dire que c'est pas oui ou non, c'est pas d'un côté, il n'y a pas de changement climatique, ce qu'en fait, personne ne dit, puisque sur l'observation, si vous voulez, on est bien obligé d'être d'accord.
On le verra après, là, parce qu'il faut marquer une pause.
C'est un long développement que vous voulez faire. Je finis juste ma phrase pour dire qu'on a le droit de contester, si vous voulez, les politiques que certains veulent mettre en œuvre, parce que ces politiques nous mettront au bord de la guerre civile avant qu'on ait changé quoi que ce soit.
Ouais, bah ça aurait été pas mal de marquer une pause, effectivement. C'est hyper intéressant, cet extrait, il y a beaucoup de choses dedans, il est très riche. On sent quand même un petit moment de malaise, hein. Peut-être même il s'en rend compte quand Pascal Praud commence à dire « Ouais, en fait, toute vérité est discutable, etc. » Et nous, on a plein en tête d'exemples historiques de choses qui sont pas du tout discutables. Je vais pas ici citer de noms, mais il y a quand même un truc de relativisme, comme si toute vérité était discutable.
Pardon, je suis désolée, mais moi, ça me fait penser aux chambres à gaz qui sont un détail de l'histoire,
c'est ça,
presque.
Exactement.
Je vais le citer et je vais mettre les pieds dans le plat.
Ouais, ouais.
Donc ça veut dire.
On te reconnaît bien là, ça.
Non, mais Pascal Praud accueillerait un historien de la Seconde Guerre mondiale et irait lui dire Je
c'est
pense
ça.
Que vous nous mentez sur les chambres à gaz.
Je suis un provocateur.
En fait, je pense qu'il s'en fout complètement.
Oui,
en fait,
c'est ça.
Il s'en fout complètement. Il n'articule plus. Il est vague surtout. Il n'y a rien de concret. Il n'y a rien de palpable. Il est juste là pour finir sa tranche. Et c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et Lévy qui s'enflamme, qui.
Après, elle dit un truc, Lévy, pas inintéressant, pardon, je sais pas si on peut dire ça, non, mais elle dit, et là, je peux la rejoindre, on peut ne pas être d'accord sur les solutions à appliquer face au problème du changement climatique.
Ça, c'est vrai que les solutions font partie du débat. Il y en a qui disent, en fait, c'est des solutions de géo-ingénierie, il faut répandre des sulfates d'aérosol dans l'atmosphère, d'autres, il faut nationaliser tout de suite les grandes compagnies pétrolières et gazières. Les débats sur les solutions, on peut effectivement en discuter.
Par rapport à ce que tu disais avant, c'est que même si elle avait eu du media training, même si elle ne peut pas en caser une. Et les données qu'elle a présentées sont ingérables dans ce rythme de l'info en continu, du débat chronométré. C'est pas possible.
Ouais, et très souvent, en fait, ce qu'oublie Pascal Praud en disant « Ouais, toute vérité est discutable », c'est que très souvent, le doute, le fait de maintenir le doute, de faire croire qu'on n'est pas sûr, que ce serait peut-être pas exactement comme ça, ce doute, c'est un produit commercial au sens de fabriquer par les intérêts financiers et industriels, comme il y a eu sur le tabac. Le fait que pendant des décennies, les industriels du tabac ont matraqué qu'on n'était pas sûr que le fait de fumer une cigarette provoquait un cancer et d'autres maladies. On retrouve les mêmes méthodes. Il y a quand même des choses, ça, c'est presque un peu rassurant de voir ces les mêmes vieilles casseroles dans lesquelles on fait les mêmes vieux plats qui consistent à entretenir ce doute, à le fabriquer, parce qu'en fait, il y a des gens qui tant qu'on doute, s'en mettre plein les poches.
Ouais, alors moi je trouve qu'il, surtout qu'il utilise mal le doute en fait. Le doute, pour moi, c'est une bonne chose. Lui, il utilise le doute, il fait genre qu'il va utiliser, qu'il va appeler à la réflexion, à la mesure, à la raison. Or, Pascal Praud, lui, il ne doute jamais. C'est bien ça le problème. Exactement. Et c'est pour ça qu'il balance plein de conneries. Justement, s'il doutait, c'est à ce moment-là qu'il pourrait se poser les vraies questions. C'est à ce moment-là qu'il pourrait douter. Pour moi, c'est vraiment enquêter, c'est se poser des questions et rabattre ce qui est faux.
C'est le faux doute.
Voilà. Et ramener ce qui est vrai. Lui, c'est pas du doute qu'il utilise. Il invoque ça comme un argument rhétorique, sauf qu'il n'utilise pas le doute. Et c'est ça qui me gêne avec lui.
Et qu'il y a quand même des vérités, tu le disais aussi, Sarah, il y a quand même des vérités qui sont établies scientifiquement, qui sont passées par de nombreux ouais. protocoles. Et les choses, c'est pas uniquement tu mets ton doigt dehors, tu regardes s'il fait chaud ou froid et tu te dis, eh bah, tiens, aujourd'hui, plus ou moins de réchauffement.
Mais enfin, si tu doutes vraiment, tu te renseignes et tu te rends compte de ce qui est vrai et ce qui est faux. Lui, il doute pas. C'est son problème.
Le problème, c'est que c'est du temps d'approfondir, de comprendre, d'être pédagogique et que là, il n'y en a pas.
Il n'a pas le temps, Pascal.
Le format ne le permet pas, en fait.
Le format, mais c'est le piège de l'info en continu.
Et j'aimerais partager avec vous ce que disait un mec qui s'appelait Albert Hirschman. Donc, c'est un sociologue d'origine allemande. Et dans un livre publié en 91, il raconte qu'après chaque vague de progrès, il y a toujours les mêmes types de discours qui suivent trois grands types de discours. Alors d'abord, ce qu'il appelle l'effet pervers, c'est-à-dire on raconte que le progrès ne fera qu'empirer les choses. Ensuite, l'inanité, tout simplement que ça sert à rien de se bouger, car ce sont des choses beaucoup trop structurelles. Enfin, la mise en péril, ça va causer du tort à des choses qui existent déjà et auxquelles on tient. Et parfois, j'ai l'impression que les critiques de l'écologie empruntent le même chemin. Donc je ne sais pas si ça suffit à nous rassurer, mais ça montre bien que le changement provoque toujours de violentes réactions de la part de celles et ceux qui ont un intérêt à ce que ça ne change pas. Raison de plus pour ne pas se laisser intimider.
Non, et j'espère qu'on vous aura donné plein d'arguments pour ne pas vous laisser trop intimider.
On se retrouve très vite. Merci beaucoup, Pierre.
Et merci à vous, c'était hyper sympa.
Et à très vite.
À bientôt.
Bye bye. Ciao.